Birchutchen, donc aujourd'hui, comme l'avant-veille de Pourim, donc il est très important de comprendre le sens même de ces deux jours, et le Pourim en dehors de Jérusalem, et le Pourim de Yerushalayim. Donc le 14 et le 15 du mois de Adar Beth cette année. Nous avons déjà expliqué que chaque fête n'arrive pas seule, elle arrive avec une force contradictoire à cette fête-là. C'est-à-dire qu'il y a une force dans le monde, dans une forme d'énergie qui circule dans l'espace-temps, qui vient contrarier, qui vient en fait servir de révélateur à cet instant que nous sommes en train de vivre. On appelle ça dans le langage de nos sages une clipa, une écorce, qui va essayer de gêner, mais en fait qui va nous permettre de travailler pour comprendre le véritable sens de la fête. Si on ne comprend pas cet ennemi, cette clipa, cette écorce, qui vient pour cacher la fête, si on ne sait pas la combattre, eh bien en réalité c'est elle qui a raison de nous, et finalement on va perdre notre temps dans cette même fête, dans ce moment-là, sans réellement tirer l'énergie qui s'y trouve. Donc c'est très important de savoir qu'il y a une force contradictoire, et c'est très important de savoir comment elle fonctionne pour pouvoir la combattre, parce que c'est seulement en la combattant qu'on va vivre réellement à la hauteur de la journée. D'accord? Sinon, concernant Pourim, ça va rester des déguisements et une soulerie qui va nulle part, qui a abouti à nulle part. On va bien manger, on va bien boire, on va rencontrer des copains, mais on ne va pas réellement tirer la puissance que nous devons tirer de chaque moment dans le calendrier hébraïque. Et pourquoi je dis que c'est important? Parce que chaque fois qu'une fête revient dans notre temps, elle vient avec l'énergie qu'elle possède. Cette énergie n'est pas née le jour où la fête a eu lieu pour la première fois, où l'événement a eu lieu pour la première fois. L'événement qui a eu lieu a tout simplement révélé une force qui existe dans le monde depuis la création du monde. Et donc, il y a des énergies qui circulent dans l'espace et qu'à un moment donné, on a la capacité de capter. Au moment où on capte cette énergie, ça va donner une fête. Par exemple, à l'époque de Pourim, si Mordechai et Esther n'avaient pas cette sagesse de capter la destruction de Amalek à ce moment précis, on n'aurait pas su que le meilleur moment pour détruire Amalek, c'est Pourim. Comprenez ce que je suis en train de raconter? Mais cette énergie, elle existait bien avant Mordechai et Esther, bien avant Amalek, bien avant tout ça. Depuis le moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a mis en place une certaine énergie dans cette journée-là. À moi, en tant qu'homme, en tant que peuple, de découvrir cette énergie, de la transformer en fête. D'accord? Ce qui veut dire que je peux inventer en réalité des nouvelles fêtes, de nouvelles fêtes, si je suis capable de capter certaines énergies qui sont dans l'espace. À Pessah, il n'y avait ni enfants d'Israël, ni esclavage en Égypte, ni de Pharaon qui était en train d'assujettir un peuple. Et pourtant, Abraham, qui était seul, fêtait déjà Pessah. Comment est-ce qu'il peut fêter Pessah? Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il avait compris ce que je suis en train de vous dire. Il avait compris que le soir du 14 du mois de Nissan, à chaque fois qu'on revient au mois de Nissan, même s'il n'y a pas encore d'histoire, Il y a une capacité dans l'air de quoi ? De se libérer de tout emprisonnement. C'est-à-dire, si je veux guérir de quelque chose qui m'empoisonne la vie, le meilleur soir dans l'année, c'est le 14 Nissan. Aujourd'hui, c'est devenu Pessah. Mais ne pensez jamais que vous fêtez la fête parce qu'un jour, on est sorti d'Égypte. Non. On est sorti d'Égypte parce qu'il y a un potentiel ce jour-là. Et qu'un jour, on a eu la capacité de capter. On a compris que ce jour-là, dans l'année, c'est le moment propice pour sortir d'Égypte. Et c'est la même chose pour toutes les fêtes. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de dire ? On ne fête pas un événement parce qu'il y a eu lieu, on fête Pourim, et maintenant on est en train de parler de Pourim, parce qu'à ce moment-là, dans l'espace, il se passe quelque chose. Et un jour, Mordechai et Esther ont pu capter cette chose-là. Mais cette chose-là n'a pas disparu. Puisque chaque année, au même moment, cette même énergie revient. Je pense que j'ai été assez clair.
Quelle est la différence entre le travail qu'on doit faire avant la fête et le jour de...
Alors les athlètes, on est en train de voir. Alors, d'abord, il faut savoir que la clipa, que l'écorce qui va venir, en fait, d'un côté, gâcher la fête, mais en même temps me donner la possibilité de sortir en guerre pour découvrir la paix, c'est un code. Le nom de code de Pourim, c'est Amalek. Si je ne comprends pas ce code-là, je ne peux pas le combattre, donc je ne pourrai pas sortir, ouvrir l'écorce, pour trouver le fruit qui se trouve à l'intérieur. Donc il y a un fruit à l'intérieur. Pourim vient du mot Peru Urbu, Piria Verivia. C'est-à-dire qu'il y a une capacité à engendrer de nouvelles forces, à amener de nouvelles lumières dans le monde, mais ces lumières, encore une fois, sont dans une écorce. Cette écorce s'appelle Amalek. Je dois casser cette écorce pour trouver le fruit, pour trouver l'énergie qui se cache à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est donc que cette écorce ? Comment combattre cette écorce ? Tout ça, c'est ce qu'on doit comprendre avant de rentrer à Pourim. Alors, avant Pourim, pendant Pourim, après Pourim, il y a certains degrés qui touchent à ce contexte-là, à ce concept-là qui s'appelle Amalek. Quel ?
Alors, vous avez dit que chaque fête a ses énergies, mais qu'au fil des années, les énergies, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'elles augmentent ou...
Toujours les mêmes énergies, toi tu vas l'utiliser dans ton histoire moderne, mais c'est toujours la même énergie. Elle n'a pas besoin d'augmenter, c'est une valeur absolue. D'accord ? Utilise-la dans tes moyens. Par exemple, le 14 de Nissan, au lieu de lire qu'on a un abruti, la Haggadah de Pessah, en pensant que tu racontes une histoire du passé, lis la Haggadah de Pessah, mais en pensant que toi-même, tu es en train de te libérer de tout ce qui t'embête dans ta vie. Et là, Pessah va changer complètement pour toi. Tu comprends ? Alors que tu as pu lire la Haggadah de Pessah depuis que tu es né jusqu'à maintenant, juste pour terminer un texte et pour manger. C'est ce que malheureusement la plupart des gens font. Et toutes les fêtes pareilles. À quoi ça sert ? Donc je dois comprendre, et là on est en train d'étudier un sens beaucoup plus profond de la Torah, qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné des ustensiles pour nous aider. C'est une arme. Je suis en train de vous donner une arme pour essayer de gagner ce qu'il y a à gagner dans le temps, dans l'espace et dans l'être que vous êtes. C'est énorme. Il faut utiliser ses forces. Sinon, Chas v'Shalom, c'est comme du zera les batala. C'est-à-dire, il y a une semence qui descend du ciel, une énergie, et personne ne l'utilise. Elle va aux égouts. C'est là ? Tu avais une question ? C'est bon.
Ça veut dire qu'il y a encore un potentiel, il y a encore un potentiel à découvrir. Puisqu'il y a une énergie dans chaque jour, et qu'on ne fait pas forcément tous les faits. Ça veut dire qu'on a un potentiel à...
Exactement. Dans chaque jour de la semaine, par exemple le dimanche, il y a une énergie qui revient tous les dimanches et qui s'appelle le chesed, la bonté. Tous les lundis, il y a une autre force qui s'appelle la gvoura. Mais si tu ne connais pas ces codes, eh bien pour toi le dimanche, le lundi ou le jeudi, c'est pareil. Et ce n'est pas pareil.
Le dimanche d'avant, mais pas le même que celui d'après.
Il est au niveau de l'énergie potentiel le même, mais toi maintenant, étant donné que le temps a changé, tu peux utiliser cette même énergie pour le temps présent. D'accord ?
Je voulais savoir si vous allez expliquer comment la combat, c'est plus
long. J'essaye de... On va comprendre, on va commencer. S'il n'y a pas de questions, on avance. Ok. Alors, on commence. Mechiat Amalek, effacer Amalek. Rambam, on va commencer par le Rambam. Ilchot Melachim Perek Aleph Alacha Aleph. D'accord ? Lorsque le Rambam parle des rois, écoutez bien, ce n'est pas n'importe quelle place où ça a été placé. C'est-à-dire que le Rambam nous parle des rois d'Israël, donc du royaume d'Israël. Vous vous rappelez de ce chiour concernant Pourim, où nous avons vu qu'en réalité, on voulait nous empêcher de revenir sur notre terre. Pourquoi on a peur à chaque génération que le peuple juif revienne sur sa terre? Parce qu'on a peur que le peuple juif fonde un royaume, un roi, qui mette en place un roi, qui ce roi-là va être la réflexion du roi céleste sur terre. Et donc toutes les valeurs de ce monde vont changer. Et ça, ça fait peur aux nations du monde parce qu'elles veulent rester au niveau de ce qu'elles ont vécu jusqu'à aujourd'hui. Alors que le peuple d'Israël a quelque chose d'autre à proposer à l'humanité. C'est de vivre avec une autre hauteur. Et ça, ça dérange. Quand quelqu'un te dit, à partir de maintenant, on va monter le niveau. C'est plus le même niveau. Mais ça dérange tout le monde. Au départ. Mais finalement, les gens se disent, heureusement qu'il y a eu cet élément-là qui m'a fait monter de niveau. Tiens, quand j'étais jeune, quand tu allais dans un mariage, il y avait un orchestre, plus ou moins bidon. Quel est arrivé un système de musique nouvelle qui a obligé tous les musiciens à s'améliorer. Et donc ça a évolué, ça a fait évoluer tout le système. C'est la même chose. Le monde tel que nous le vivons aujourd'hui est encore jeune, pas mature, et le peuple d'Israël propose une maturité à ce monde-là grâce à des valeurs qu'on puise dans le divin. Et pour cela, il faut fonder un royaume. Pour fonder un royaume, il faut monter en terre d'Israël. Donc le peuple d'Israël doit être sur sa terre. Et voilà ce que dit le Rambam. Shalosh mitzvot nitzavu Israël bechnisatam la'aretz. Il y a trois mitzvot que le peuple d'Israël ne peut pas faire ailleurs, si ce n'est que lorsqu'il est rentré à la maison. Alef, limnot lahem melech, lemanot lahem melech. Première mitzvah de se proclamer un roi. Chez Nehemar, comme il est dit, Som tassim alecha melech, tu te mettras un roi sur toi. Deuxième mitzvah, Leachrit zaroch el Amalek, détruire la semence de Amalek. Chez Nehemar, comme il est dit, Timche et Zerer Amalek, tu effaceras, tu gommeras le souvenir de Amalek. Gimel, troisième mitzvah, Livnot et Bet Abechira, construire la maison du choix, c'est-à-dire le Bet Amigdash. Chez Nehemar, comme il est dit, les Shiknot Idreshu Uvata Shamma. Je te demande de faire descendre ma Shekhina, ma présence divine, c'est Dieu qui parle, là-bas et pas ailleurs. Donc nous avons ici trois mitzvot très importantes qui sont en réalité le but même pour lequel le monde fut créé. Donc si le but c'est de dévoiler le royaume du ciel sur terre, vous comprenez par là même que un juif ne peut pas vivre éternellement en dehors de sa terre, parce qu'il ne fait pas encore la mitzvah pour laquelle le monde a été créé. Le monde a été créé pour que le royaume du ciel soit sur terre. Or, je ne peux pas me mettre un roi sur terre qui soit représentant du royaume du ciel si je ne suis pas sur ma terre. Donc le peuple d'Israël doit absolument venir sur la terre d'Israël pour ériger un roi, pour détruire tout ce qui gêne, donc Amalek, et pour construire l'instrument, qui est le Beth Amikdash, par lequel l'aspect divin va descendre sur terre. C'est très simple, c'est très clair. Tout ce qu'il y a autour, ce sont des gènes. Ce sont des événements qui gênent à aboutir à ce degré-là. Et on peut oublier très facilement le but principal de notre vie, parce que nous sommes toute la journée préoccupés par des petites bêtises qui sont juste à droite et à gauche, à côté. Et c'est comme quelqu'un qui vient et qui a un examen à commencer à remplir, il a une heure de temps, et au lieu de commencer à cocher, à remplir et à lire, il aiguise son crayon, il fait tomber sa gomme, il s'est taché avec de l'encre. Et quand il est bien, et qu'il se frotte les mains, il s'est dit, bon, je commence, ça sonne, c'est fini. Donc ça ne sert à rien. Eh bien, malheureusement, on perd notre temps avec beaucoup de choses qui nous paraissent importantes, mais qui, par rapport au vecteur principal, sont anodines. Elles ne valent rien. Et on perd notre temps et notre vie tout entière à régler ce genre de petites choses, comme à tailler ton crayon. Je vous donne des images, hein, il faut le comprendre. Et le véritable examen, tu n'as même pas commencé encore. Donc faites attention, quel est le but général de la nation d'Israël dans ce monde. Et ne partez pas en cacahuète, en pensant à des petites choses à droite, à gauche, qui vous obstruent, qui vous gênent, qui vous donnent des informations, qui vous allument à droite, à gauche, et vous vous perdez. Parce qu'on risque très facilement d'oublier pourquoi, ce pourquoi nous avons été créés. Très facilement. Même en pensant être dans le droit chemin. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que tu peux appliquer la Torah et les mitzvot, mais tu ne comprends pas quel est le sens de tout ça. Alors, tu vas t'arrêter au milieu du chemin. Tu vas être bloqué dans ton chemin. Ça, c'est la première clé. Amalek, où est-ce qu'il nous attaque? Baderech, en chemin. Qu'est-ce que ça veut dire que Amalek attaque en chemin? Il t'attaque dans le chemin de quoi? Ça veut dire en chemin. Avant le retour en Israël. Dans ton but principal. C'est-à-dire, il va attaquer ta direction première. Ton essence. Ce dans quoi tu es bon. Il va essayer de te paralyser, de te mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que tu sois clair dans ce que tu vas. Les Chachamim nous ont dit que la valeur numérique de Amalek, c'est le doute. C'est la même valeur numérique, 240. Si je contracte 240, j'ai 2 plus 4 plus 0. Donc ça fait 6. Ça veut dire que Amalek est en valeur numérique 6. Qu'est-ce que c'est le 6? C'est le lien, c'est la direction. Ani, V, la lettre Vav en hébreu. Donc Amalek, son but, c'est de couper les liens avec ce que tu as de clair dans ton esprit, ce qui est sûr chez toi. Il va te mettre le doute, tu ne sais plus où est ton chemin, tu ne sais plus les liens. Tu es sorti d'Égypte, mais tu as oublié que c'était pour entrer en terre d'Israël. Donc tu peux rester en exil. Et tu changes un exil pour un autre exil, et tu changes un deuxième exil pour un troisième exil. Et dans le troisième exil, tu changes de quartier parce que là-bas, on embête les juifs, mais ici, non. Et chaque fois, tu te trouves, en fait, des raisons qui ne sont pas du tout la raison première que tu as complètement oubliée maintenant. Et au lieu d'avancer, tu es en train d'éteindre des petits feux, des petits foyers de feu qui sont en train de se déclarer à droite et à gauche. Et tu as l'impression que c'est là et que tu combats. Mais tu fais rien. Tu n'avances pas vraiment. Tu es contre le mouvement des vagues. Donc tu nages, tu fais des efforts, et en réalité, celui qui te filme, il se dit, le pauvre, il n'a même pas avancé d'un mètre. Ça, c'est Amalek. Faites très, très attention à ça. Comment je ne peux ne pas oublier l'élément principal? Je dois regarder mon peuple. Si je me regarde moi, seul, eh bien, j'ai plein de petits soucis. Et ces petits soucis vont me faire sortir du chemin général, global. C'est pour ça que dans le mot Amalek, il y a d'abord le mot Am, c'est-à-dire le peuple. Et Lek veut dire sucer le sang du peuple. Autrement dit, te faire descendre du niveau de la nation d'Israël avec le but pour lequel elle a été créée, et t'occuper de quoi? De ta petite religion à toi. Tu te lèves le matin, tu as ta petite rabruta, ton petit machin, et tu oublies complètement la direction générale de ta vie. Ça, c'est le premier danger. Klipat Amalek. Maintenant, on va rentrer dans le texte. Je parle pas seulement de rentrer, je parle pour à quoi ça sert de rentrer en Eretz Israël. Je l'ai dit. À construire un édifice qui va recevoir les valeurs divines pour donner au monde une nouvelle vision. Ça vous intéresse pas là-bas? Tu peux sortir, hein? C'est ça? C'est exactement ça. Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler les noms d'Hachem? Tu crois qu'il s'agit d'un jeu, les chiffres et les lettres? Qu'est-ce que ça veut dire dévoiler le nom d'Hachem? Qu'est-ce que c'est le nom? Le nom, c'est sa volonté. C'est ça le nom. Quand je dis le nom d'Hachem, Hu, c'est son être, et Shmo, est en valeur numérique Raston, c'est-à-dire son nom, c'est sa volonté. Donc c'est ça, dévoiler les noms d'Hachem. C'est pas autre chose, c'est pas juste savoir des noms. C'est savoir réaliser le but, parce que le nom, c'est le but de quelque chose. Dans le mot Shem, il y a Sam, il y a une direction. C'est ça, dévoiler le nom d'Hachem. Et ça, tu ne peux pas le faire tant que tu n'es pas un peuple, tant que tu n'es pas rentré sur ta terre, tant que tu n'as pas un roi, tant que tu n'as pas éliminé tous les gênants, tous les gêneurs, et tant que tu n'as pas construit le Beth Amikdash réellement pour recevoir ce flux divin. Ok? Donc, Klipat Amalek Gdola Mikol Shar Klipot. La Klipa de Amalek, cette écorce-là qui vient nous gêner, c'est la plus grande et la plus dangereuse de toutes les Klipot existantes. Ce qui fait que Purim, c'est en réalité le moment le plus important. Alors que pour nous, c'est devenu une rigolade. Regardez comment la Klipa de Amalek, elle réussit à nous jouer des tours. Purim, c'est un jour très sérieux, très fort, très élevé, où je peux faire une guerre. Et si je reste cette journée avec des déguisements et des machins sans rien comprendre, qu'est-ce que j'ai fait? Donc le Ari Akadosh, le Arizal, un des plus grands kabbalistes que le peuple d'Israël ait connu, qui a vécu il y a 500 ans à peu près à Tzfat, nous dit « Yeshla leota klipa » que cette écorce-là de Amalek, « Komash lema » elle a un édifice entier, cette écorce, comme « Chas v'shalom » l'édifice de la Kedusha. C'est-à-dire, vous avez un immeuble de Kodesh, en face, vous avez un immeuble, le même, de l'antithèse. Terrible. Ou mitzvat mechiat Amalek, et il nous dit que seulement par la mitzvah de détruire Amalek, je n'ai aucune mitzvah qui ressemble à celle-ci dans la Torah, d'aller détruire des nations du monde. On n'a pas une mitzvah pareille. De les effacer complètement de la surface de la terre. Ça veut dire quoi? Que si j'ai une mitzvah aussi, j'allais dire, extrême, mashma shu rosh l'école à Klipot, ça veut dire que j'ai affaire ici à quelque chose de très grave, qui est la tête du serpent. De toutes les problématiques de ce monde. De toutes les défaites de ce monde. On va appeler ça le serpent. Ce serpent-là, on l'a déjà connu. Dès que Akadosh Baruch Hu crée le monde, ce serpent apparaît. Il est déjà là. Ça veut dire qu'il est créé pour gêner, pour déranger. Comment est-ce qu'il peut déranger? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il vous propose autre chose. C'est tout. Il vous propose un autre chemin, un autre degré, une autre consommation que celle que vous devez consommer. Donc il va vous inviter au restaurant. Et lorsqu'il vous a invité au restaurant, il vous a dit, c'est moi qui paye, t'inquiète pas. Mais maintenant tu vas manger quelque chose que tu ne devais pas manger. Pas au premier degré. Pas que tu vas manger une pomme, un fruit. Tu vas absorber une notion qui va te perturber l'esprit. Tu vas entendre une manière de parler qui va t'éblouir, qui va t'allumer, et tu vas courir après cette chose-là toute ta vie, alors qu'en réalité, tu es sorti du circuit complètement. Et tu vas avoir l'impression que tu réussis ta vie. Et aujourd'hui, tu vas dire à quelqu'un, il a réussi sa vie, en fonction de quoi ? Par exemple, c'est quelqu'un qui a gagné de l'argent, il a réussi sa vie. Ça c'est quoi ? C'est une offre du serpent, il te dit, mange, je vais te donner plein. Tu vas te rassasier de ça et tu vas croire que c'est le but. Et comme tu vas vouloir plus et plus et plus, je vais m'occuper, moi, de ne jamais te laisser tranquille. Quand tu auras un, tu voudras deux. Quand tu en auras 100, tu voudras 200. Quand tu auras 400, tu voudras 800. Donc tu seras toujours pauvre de la même quantité de ce que tu as. Parce que celui qui a un shekel à la banque, il est pauvre d'un shekel. Mais quelqu'un qui a 1 million de shekels à la banque, sa pauvreté se chiffre à 1 million de shekels. Parce que c'est ce qu'il veut. Et toute ta vie, tu vas courir et tu as oublié Bader. Tu as oublié le chemin. Tu n'es plus heureux. Tu ne vis plus réellement à la hauteur de ce que tu es, de ton être. Tu es malheureux parce que la société, donc le serpent, t'a donné des nouvelles forces après lesquelles tu vas courir, pour rien, tu vas te fatiguer, tu vas perdre ta vie. Kemoshe Nehemar Beferouche, Reshit Goim Amalek. C'est pour ça que le texte nous dit que Reshit Goim, la tête, Roche, Reshit, la prémisse, les prémices de tous les ennemis Amalek. Ve'acharito, et sa finalité, Adei Oved, il faudra le détruire. Donc il est et au début de tout, et à la fin de tout. C'est-à-dire qu'il fait un tour complet, c'est un édifice entier, qui est l'antithèse du Kodesh. C'est une force dangereuse. Maintenant vous comprenez que Adam et Ève, quand ils étaient dans le Gan Eden, cette force existait déjà. Et Adam Arishon était un chassid, la Gemara nous dit, c'est pas un petit bonhomme. Adam Arishon, sa tête arrivait dans les mondes les plus spirituels qui existent. Et il est tombé dans cette erreur du Nahash. Et pourquoi je dis que ce Nahash c'est Amalek ? Parce que c'est la Gemara qui nous pose la question. Où se trouve Haman dans la Torah ? Dans le jardin d'Éden, dans l'arbre. Et elle utilise le mot de Haman comme Hamin, Haet. C'est-à-dire, Haman était déjà dans l'arbre avec le serpent, dans le serpent. Donc le premier Haman, le premier Amalek de la Torah, c'est le serpent. Et regardez ce qu'il nous a fait. Il a couvert Adam et Ève d'un vêtement de peau qui a rendu Adam et Ève aveugles. Aveugle de quoi ? De la vraie direction. Et nous, nous sommes Bnei Adam, les fils de Adam. On est encore dans cet aveuglement, Chas v'Shalom, sans étudier la Torah, sans comprendre que nous avons la capacité de changer ce système, de sortir de ce cercle vicieux. Et si on ne le fait pas, eh bien on continue la même erreur toute notre vie. Et maintenant, nous avons une opportunité. 2 jours. Yemei HaPurim. Pendant cette journée de Purim, les Chachamim nous disent, écoute-moi, j'ai un conseil de vie à te donner. Tu ne vas plus manger de l'arbre de la connaissance. Je veux que tu le perdes. Comment on dit perdre la connaissance? Ad de loyada. C'est incroyable. Sinon, tu vas retomber dans la même fosse qu'Adam et Ève. Tu vas continuer. Donc, je te donne la possibilité de manger d'un autre fruit que tu n'as pas mangé. Et en réalité, ce n'est pas un fruit. C'est l'arbre de vie. Donc, à Pourim, vous avez l'obligation de manger de l'arbre de la vie. Alors, c'est pas vous allez chercher des arbres, ok? Manger des morceaux de bois. Manger de l'arbre de la vie, c'est sortir, à un moment donné, précis dans le temps, de ta connaissance et donc cérébrale. Ton côté cartésien. De croire que tu comprends les choses et que parce que tu comprends les choses, alors c'est un, deux, trois. C'est pour ça qu'on boit à Pourim. Il y a une mitzvah de se parfumer, c'est-à-dire de s'enivrer, au point où tu vas perdre ta première connaissance, celle du bien et du mal, celle que toi, tu crois que le bien et le mal, c'est ça. Et tu vas monter à un autre niveau. C'est-à-dire que...
Du coup, le but, c'est de toucher cette non-connaissance à pourri, mais d'essayer d'atteindre ça pendant que le vin le reste de l'année, c'est ça ?
Exactement. Exactement. C'est de corriger la vie qui aujourd'hui est devenue la mort. À partir du moment où Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance, qu'est-ce qui est arrivé dans le monde qu'ils n'avaient pas avant? La mort. La mort n'existait pas. Ki beyom acholcha mimeno mot tamut. Donc aujourd'hui à Pourim, qu'est-ce que je peux faire? Corriger quoi? La mort. Donc ramener la vie. C'est énorme. Pourim, c'est le jour où c'est la vie qui revient dans le monde. Ok.
En vrai, vous avez dit, donc, on doit manger de l'arbre de vie, donc en fait, c'est. En vrai, pour faire l'exemple de l'animal, en buvant,
tu vas faire ça, et tu vas être en réalité ouvert. Tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, voilà, je veux perdre la raison cartésienne que j'ai, maintenant, remplis-moi de la vraie hauteur. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que si tu perds ton esprit toute l'année, tu ne pourras pas. Or, cet esprit-là, il ne faut pas l'enlever de notre vie. Il faut l'utiliser, votre esprit, votre intelligence, votre cartésien, il faut l'utiliser, mais en numéro 2. C'est-à-dire, d'abord, tu vas manger de l'arbre de la vie, et après, tu vas manger, tu as l'obligation de manger aussi de l'arbre de la connaissance. L'erreur de Adam et Ève, c'est pas qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance parce que Dieu leur a dit de manger tout, y compris l'arbre de la connaissance. Donc quelle était leur erreur? C'est qu'ils ont mangé cet arbre de la connaissance avant d'avoir consommé l'arbre de la vie. Et à Pourim, on va éloigner l'arbre de la connaissance, ne serait-ce que pour une journée. On va se remplir de l'arbre de la vie, et le lendemain de Pourim, tu vas revenir à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais cette fois-ci, tu as déjà en toi l'arbre de la vie.
Donc c'est ça, après ça, c'est de se libérer de ce qu'il y a mal dans nous, à Pourim, donc c'est de manger l'arbre de la vie.
Maintenant, tu vas comprendre. Si tu as consommé à Pourim l'arbre de la vie, à Pessah, qui est juste jour pour jour, un mois plus tard, tu vas être capable de quoi? De savoir qui te dérange. Parce que tu es déjà plein de vie. Et en plus de ça, le lendemain de Pourim, tu as déjà consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tu arrives à Pessah où tu sais exactement les éléments gênants dans ta vie. Et donc tu vas être capable de les écarter de toi. C'est tout. Et c'est ça ton soir du Seder. Tu vas mettre de l'ordre Seder dans ta vie. C'est clair ce que je suis en train de dire? C'est très cohérent. Quel?
Comment on sait qu'à Pourim on a réussi justement à faire ça?
Comment on sait? Tu sais pas. Tu es encore dans l'arbre de la connaissance, parce que tu te poses des questions de connaissance. Tu as compris ton piège? Je suis en train de te dire de manger de la vie, et toi tu me dis comment je sais que j'ai mangé? Pourquoi? Mais c'est tout le monde, c'est pas que toi, ne t'inquiète pas. Parce qu'on est tous coincés dans ce système de logique. Justement, il faut vivre. Il ne faut pas penser que tu vis. Et c'est ce qu'on appelle « Mets-toi à table, à Pourim, demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, je vais commencer à boire, ne me fais pas honte, je ne veux pas devenir un cochon qui va commencer à vomir, qui va commencer à faire n'importe quoi. Je fais ça pour toi, je me lâche. Je lâche prise. C'est la journée du lâcher prise total. »
Donc on va
accomplir
ça
au Mishteh. Une fois par an à Pourim. Interdit ailleurs.
C'est pas pendant toute la journée alors.
Non, c'est pendant le Mishteh. C'est-à-dire? Et d'ailleurs, tu peux pas lire la Megillah avant. Ouais. Si tu es dans cet état déjà.
Alors là, c'est-à-dire, il n'y a qu'un moment précédent pour goûter à la langue de la Mishteh.
Exactement. Mais après, une fois que tu l'as goûté, qu'est-ce qui se passe? Non, il est en toi, c'est fini. T'as plus besoin, il est en toi. Parce que chaque année, tu as grandi. C'est la question tout à l'heure. Toi, tu as grandi, toi, tu as changé. Donc, tu vas absorber encore un autre degré de cet arbre de vie. Tu comprends? Tu vas élargir ton cli. Quel? Exactement. Exactement. Au moment où tu as sorti tout ça, et le Harizal dit quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire en dehors de Pourim. Il doit dire, l'homme, comme ça dit le Hari Akadosh, le jour de Pourim, au moment où il est complètement dans cet état, Baruch Haman. Et Arur Mordechai, terrible. C'est-à-dire, maudit Mordechai, béni Haman. Comment? Là, il y a un secret énorme. Énorme. Le Harizal, il va nous expliquer ce secret-là. Il va nous dire qu'en réalité, quand tu es dans cet état-là, c'est pas que tu dis « maudit Mordechai ». Je vais t'expliquer maintenant. Tout ce qui est maudit dans Mordechai, tu vas le sortir. Et tu vas le donner au mal. Et tout ce qui est béni chez Haman, c'est-à-dire les forces de sainteté qu'il a volées de toi, en disant Baruch Haman, tu vas lui prendre de lui et tu vas les ramener à Mordechai. Exactement. Ça veut dire qu'on va devenir complètement bien et le mal va devenir complètement mal.
Il n'y a plus du tout de mal.
Contraire. C'est-à-dire qu'on va prendre conscience qu'on va récupérer toutes nos énergies. Quand un bébé sort du ventre de sa maman, pourquoi il prend tellement de temps à sortir? Pour séparer le bébé de la poche dans laquelle il était. On appelle le placenta. Quand le bébé va sortir, qui va sortir en réalité du ventre de la mère? Les deux. Et le placenta, et le bébé. Et qu'est-ce que font les médecins? Ils s'occupent du bébé ou du placenta? Du placenta. Ils vont poser le bébé sur la mère, et ils vont immédiatement aller voir le placenta. Pourquoi? Pour voir s'il manque quelque chose dans le placenta. Parce que s'il manque quelque chose dans le placenta, il est où? Dans le bébé, Chas v'Shalom. Vous avez compris le secret? Et donc, chaque élément, il faut qu'il soit complet. Il faut que je voie le mal complètement en face de moi. Mais c'est vrai qu'à la source, ces notions-là n'existent même plus. Je veux que vous compreniez ce qu'on est en train de traverser ici. Si vous arrivez à Pourim, faites-moi confiance. On ne se voit pas beaucoup. Je vous donne des clés. Pour la vie, pas seulement pour demain, après-demain. Je vous donne des clés pour la vie. Ne les oubliez pas, ces clés-là. Ça fait 50 ans que je les cherche, moi, ces clés. Là, je vous les donne sur un plateau d'argent. Parce que Baruch Hashem, j'ai le bonheur d'avoir des maîtres puissants qui nous donne ces clés. Et vous, vous arrivez tout frais. Mais parce que vous êtes dans une génération messianique, vous êtes capable aujourd'hui d'entendre ça. Alors je dilue au maximum, c'est sûr. Mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, vous ayez compris. Shoresh Amalek me'esav. Maintenant, on va comprendre pourquoi tout ça. D'où vient Amalek? De Esav. Mi beten akdusha. D'où est-ce qu'il est sorti, Esav? Du ventre de qui? De Rivka. Rivka, c'est quoi, Rivka? C'est la sainteté. Rivka, c'est la lumière. C'est les lettres de Boker. Bakara, la possibilité de voir. Et Esav, il est sorti de ce ventre-là? Ben oui. Yachadim hachelekatov anikra Yaakov, il est sorti avec la partie bonne qui s'appelle Yaakov. Donc en réalité, il est sorti de là-bas, de ce même ventre, de jumeaux. Terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que c'est pas comme Ishmaël, où il y a eu deux femmes. Une, elle a donné un enfant qui s'appelle Yitzhak, et l'autre, elle a donné un enfant qui s'appelle Ishmaël. Non, là, c'est le même ventre. C'est terrible, ça fait peur maintenant. Pourquoi ça fait peur? Parce que tu ne sais pas différencier entre l'un et l'autre, puisqu'ils sont jumeaux. Ça veut dire que le Amalek et le Israël peuvent être tellement ressemblants que tu ne verras même pas la différence. Et donc il va pouvoir t'embrouiller très facilement. C'est un mélange. Erev Rav veut dire un mélange énorme. Erev, les Arvev. Maintenant vous comprenez pourquoi à Kippourim, on va prendre deux boucs qui sont identiques. Et un va aller à Azazel et l'autre va aller chez Akadosh Baruch Hu Lachem. Parce qu'en réalité, il est tellement difficile de discerner où est le bien, où est le mal, ils vont tellement se ressembler le bien et le mal, et maintenant je rentre dans vos vies privées, quand vous faites quelque chose, le bien et le mal sont tellement confondus qu'on risque à chaque instant de croire que le bien c'est le mal et que le mal c'est le bien. Et en fait, puisque le plus grand yesser de vie, il est à Pourim aussi. Donc c'est un combat. Quel? Bien fait, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu viens de comprendre. Donc il va falloir le détruire, pas le retirer, puisque la mitzvah c'est Macho Timche et Zecher Amalek mitachat ha-shamayim. Tu dois l'effacer, comme une gomme. Il n'y a plus. Sinon, tu restes toujours avec un élément perturbateur dans ta vie qui va t'empoisonner la vie. Alors je vais vous donner une petite clé, c'est un acte symbolique à faire le jour de Pourim. Vous allez prendre un petit bout de papier et vous allez marquer dessus Haman et Amalek. Non, en hébreu. Haman, Amalek. C'est pas besoin de... Lève, c'est pas fini. C'est une ségoula. Vous prenez ce petit bout de papier où il y a marqué dessus deux noms. Haman, Amalek. Si tu as envie de mettre E et C en clé deux, non. C'est la même chose, c'est le même. Il est E, S, C et E, T. D'accord? Donc tu marques les deux noms et tu le prends et tu sors dans la rue. Et tu le mets par terre. Et tu prends du vin rouge, un tout petit peu, tu verses dessus et tu l'écrases avec ton pied, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ce bout de papier avec le vin et tout, tu ne verras plus rien. Et tout va se... tu ne vas plus rien boire. Ça va devenir un petit... rien du tout. Tu fais ça, et tu penses, en même temps, c'est un acte symbolique qui est important, à détruire le jour, même le matin. Tu t'es levé, donc ça va être vendredi matin, ici à Jérusalem. Vendredi matin, tu auras lu la Megillah à 7h, j'en sais rien, quelle heure ils vont la lire ici. vers 10h du matin, 11h, avant de commencer le pété, tu vas mettre ce bout de papier par terre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le Ben Ishraï à la Vachalom qui nous donne cette ségoula. Et tu vas dire, c'est nous, Shechar le Oved. Donner du vin, marquez-le, c'est une combinaison importante. Cinq codes qu'il faut dire. T'es nous. Shechar. De la chicor. De l'eau de vie. Le Oved à celui qui va disparaître. Avec un Aleph. T'es nous, Shechar le Oved. D'accord ? C'est un code à dire, c'est une clé. Et vous pensez à éliminer complètement le Amalek de votre vie. De votre vie, le Badaï. De tout Amalek. Mais c'est toi maintenant qui fais l'acte. Mais tu le sors de toi et d'une manière générale. Écoutez-moi bien. Si vous le faites, je vous garantis que votre année va être complètement différente après. Si. Si. Tu passes ta journée à faire des demandes. Parce qu'il y a une règle, le jour de Pourim, kol ha-pochet yad, notnim lo. Quiconque tend la main, ce jour-là, on lui donne tout ce qu'il demande. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est là où tu peux demander, tout est ouvert, il n'y a rien. Au niveau de la Kabbalah, je ne peux pas rentrer dans des détails. Il y a marqué que la Chokhma n'est pas cachée par la Malchut. Le Yesod, le fondement des mondes supérieurs est clair. C'est-à-dire que tu peux demander tout ce que tu veux. Alors que dans la Klipa, qu'est-ce qu'on te dit ? Atrati à Malchut. À chaque fois, Achashverosh, qu'est-ce qu'il dit à Esther ? Jusqu'à la moitié de la Malchut. Pourquoi il lui dit Atrati à Malchut ? C'est-à-dire, je ne veux pas te donner toute la royauté, sinon je suis fini, moi, je suis terminé. Vous savez qui c'est Achashverosh ? Traduction en français. Prise de tête. Ah, Achashverosh, ben oui. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est l'Agmara. Pourquoi on l'appelle Achashverosh ? Parce que tout celui à qui il parle, c'est une prise de tête. D'ailleurs, le mot prise de tête vient de ça. Achashverosh. D'accord ?
Exactement.
Ça veut dire la source du mal, elle est là-bas, la source du bien, elle est là-bas. Et qu'est-ce qui a marqué ? C'est pas moi qui dis, c'est la Torah. Où les hommes, ni les hommes, yéhémat, verav yavot saïr, shne goïm bebisner, ou shne le oumi, ni me'al yichiparedou.
C'est facile, il dit qu'il y en a qu'Esav, vu qu'il était avec la terre,
avec la matière,
et qu'il voulait le sommeil, et qu'à
Kobi,
il était sur les
toilettes,
il voulait... Donc on
ne
sait pas
si
qui était...
Non, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire, tant que c'est encore dans le vent, tant que c'est encore caché, tu ne sais pas toi-même déceler où est le bien, où est le mal. C'est pour ça que je te dis de le faire sortir. Au moment où tu le fais sortir, tu pourras faire la séparation. Comme le bébé, le placenta tout à l'heure. Tant qu'ils sont dans le vent, ils sont ensemble.
Nahon.
Parce qu'ils ont les mêmes valeurs absolues. Tu sais ce que c'est une valeur absolue en mathématiques ? C'est la même valeur, 10. Maintenant, c'est ou moins 10 ou plus 10. Ça doit de mettre le signe. D'accord ? Ça veut dire que Amalek, en valeur absolue, c'est comme Israël, Chas v'Shalom. C'est terrible. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était une komache les mâles, Arizal dit. C'est pas comme les autres nations. Donc tant que tu n'as pas fini Amalek jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il se passe ? Il va engendrer encore. Par exemple, le roi Shaoul, qui n'a pas tué ? Le roi Agag. Or, dans la Megillah de Esther, comment il s'appelle Haman ? Agagi, ça veut dire qu'il est venu de Agag. Donc, le roi que Shaoul a laissé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti encore de nouvelles plantes. Qu'est-ce que ça veut dire chez vous maintenant dans votre vie ? Si vous n'éliminez pas Amalek complètement de votre vie, il va faire des petits encore. Et il va vous empoisonner la vie. Non-stop.
Le seul moyen d'éliminer Amalek.
C'est pas le seul moyen, c'est que ce jour-là, C'est une puissance énorme. Ça ne veut pas dire que le lendemain, tu vas dire non, je fais rien. Mais c'est le meilleur moment. Et qui nous a donné ce secret que c'était le meilleur moment ? Mordechai et Esther. C'est pour ça qu'ils ont fixé la fête de Pourim. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fixant la fête de Pourim ? Le temps pour détruire Amalek. C'est tout ce qu'ils ont fixé. Et aujourd'hui, c'est devenu quoi ? Le temps pour ? Ça t'a rien compris, tu sais même pas de... Qu'est-ce que tu es venu faire ? Donc ça s'appelle en fait qu'on va te donner un tmoura, qu'est-ce que ça veut dire tmoura ? Une contrepartie, un leurre, un déguisement à la place de la réalité. Et donc tu vas passer ta journée à faire ça alors que tu devais être là. T'as même pas utilisé la journée. Quel ?
Pour pouvoir éliminer Amalek, il faut, même si vous bouffez tout, il faut comprendre vraiment ce que c'est dans la profondeur. Parce que
il a fait, il a fait.
Donc en fait, Amalek, c'est tout ce qui est hors, tout ce qui est hors, qui est la Gdoucha.
Exactement. Mais pas seulement qu'il est hors la Gdoucha, il est anti-Gdoucha, parce qu'il ne veut pas que tu arrives à tes fins. Et qu'est-ce que c'est arriver à tes fins ? C'est les 3 degrés que j'ai dit tout à l'heure. Rentrer en terre d'Israël, donc te proclamer un roi, qu'est-ce que c'est te proclamer un roi ? Maintenant, toi, privé. On va terminer le cours avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment tu vas te proclamer un roi, toi ?
Être maître de tes actes.
Il y a fait, magnifique. Là, tu me fais plaisir. Tu vas être maître de tes actes. Comment est-ce que tu vas être maître de tes actes ? Prends les lettres de Melech. C'est des initiales. Mor, Lev, Kaved. C'est-à-dire le cerveau, le cœur et ton foie. N'inverse pas. Si tu inverses le phénomène, ça devient Kloum. Voilà. Ou bien Lemer. C'est-à-dire un clown. Ou Kloum ou Kloun. Okay. Donc Melech. Non, ça c'est avec un Ré. Ça c'est un Khaf. N'essaie pas de m'embrouiller. Deuxième élément, j'ai pas encore bu. Deuxième élément, les Achrizarot et l'Amalek. Pourquoi tu ne peux pas détruire Amalek tant que tu n'as pas fait le roi ? Il y a fait, non, tu n'es pas maître de ton destin. Tu n'as pas de maîtrise. Tant que tu n'as pas de maîtrise, Amalek, il est en train de te bouffer. Donc il faut que tu sois Meler. Une fois que tu es Meler, tu peux détruire Amalek. Et une fois que tu peux détruire Amalek, qu'est-ce qu'il te reste à faire ? À construire ton Beth Amigdash pour recevoir la Shrina, tu vas devenir un top niveau. Vous rendez compte de la clé que je vous donne là ? Ben, ce pouvim là, il peut vous changer la vie. Dans le bien, Bezat Hashem. Ça peut être une clé si vous l'utilisez. C'est très important. Je ne suis pas là juste pour vous donner un cours. Je m'en fiche moi de donner des cours. C'est une leçon de vie, c'est une clé pour réussir Be'ezrat Hashem. Dans toute votre vie, ça va vous accompagner. Ou pourim, ou pourri. C'est vrai ? Et quand vous êtes au Mishté, vous allez avoir du monde avec vous. Dites ces choses-là. Aidez vos amis. Comme moi, je suis en train de vous passer un message. Faites passer le message pour ne pas que les gens se perdent dans n'importe quoi ce jour-là, c'est dommage. Ils doivent réaliser, mais encore une fois, le Melech, le véritable Melech, regarde ce qu'il dit le Rambam, Shalosh mitzvot nitzavu Yisrael matay, deknisatam la'are. C'est ça la clé, Rabotai, je suis pas en train de vous dire que les sionistes, ça n'a aucun rapport, on est en train de parler de Torah, Rabotai. Ou tu veux étudier sérieusement, ou tu t'inventes ce que tu as envie. Je ne sais pas moi comment les gens ils font, je ne comprends pas, je vous jure, j'essaye d'être le plus honnête possible. Je ne comprends pas comment ils s'arrangent. Qu'est-ce
quand on fait selon le noir, ça
va, tu vas être maître de ta vie. Parce que imagine-toi que les éléments chez toi, comment on dit quand quelqu'un il a une tgouva, une réaction impulsive, comment on dit en hébreu ? Non. Tgouva beten. Ça veut dire qu'il a une réaction qui vient du ventre. Et quand la réaction elle vient du ventre, qui est impulsif, mais en réalité c'est la colère. D'où vient la racine de toute la colère? Le foie, kaved. Kaved. Kaved, c'est le foie. C'est la même chose. C'est ça qui te rend lourd. C'est ça qui veut. Quand quelqu'un il veut du kavod, c'est quoi? C'est ça, c'est le foie, c'est la colère. Pourquoi on ne me respecte pas? Pourquoi? C'est la même chose. L'ève, c'est quoi? C'est les émotions. Et les émotions, elles sont liées au cerveau. C'est pour ça qu'il faut toujours relier. Comment ça s'écrit l'ève? Lamed bet, pas lamed vav. D'accord? C'est-à-dire, en valeur numérique, c'est 32. Exactement le nombre de dents que tu as. Exactement. C'est-à-dire que, normalement, quand tu parles, tu dois avoir une muraille de protection qui sont les 32 dents, qui sont la même valeur numérique que le cœur. Or, les dents, en français, ça veut rien dire. Il y a même des dents contre toi, je sais même pas pourquoi. Il a une dent contre toi, mais j'ai jamais vu une dent contre moi. En hébreu, shinaim, c'est la capacité de changer. Shinui. Donc ça va transformer la nourriture, ça va la mâcher, ça va pouvoir l'absorber. Et bien tu vas utiliser cette muraille pour changer ta façon de parler. Et Moar, Memchet, c'est 48. 48, c'est le secret de tout ce qu'on appelle les Mochim, de toute l'arbre de la vie que nous devons consommer ce jour-là. Quelle dernière question?
De Amalek, que l'intérieur?
Non, j'ai pas dit que.
Non,
il y a les deux. Le Amalek intérieur qui est en toi, il va nourrir le Amalek ennemi réel. Tant que tu n'as pas détruit celui de dedans, ça sert à rien de détruire celui de dehors. Donc ça va ensemble, les deux doivent être détruits. Il y a deux guerres contre Amalek, une intérieure, une extérieure. Donc il va falloir sortir contre Amalek en guerre et Be'ezrat Hashem, le jour de Pourim, Esther nous a donné ce code, Venahapochu. Asherishletu a Yehudim, Hema Betoneim. Ce jour-là, il y a une capacité d'inverser toutes les forces négatives pour que tu sois toi dominant sur tous tes ennemis, tous ceux qui te haïssent. C'est ce qui va se passer, Be'ezrat Hashem, ce Pourim, et au niveau des individus que vous êtes, et au niveau de notre nation. Pourim sa mère.